L'ancienne culture allemande. Lorsque les Allemands commencèrent à devenir intéressants pour les autres peuples de l'Europe, il n'y a pas si longtemps de cela, ce fut grâce à une culture qu'ils ne possèdent plus aujourd'hui, qu'ils ont secouée avec une ardeur aveugle, comme si ça avait été là une maladie. Et pourtant, ils ne surent rien mettre de mieux en place que la folie politique et nationale. Il est vrai qu'ils ont abouti par là à devenir encore beaucoup plus intéressants pour les autres peuples qu'ils ne l'étaient autrefois par leur culture. Qu'on leur laisse donc cette satisfaction. Il est cependant indéniable que cette culture allemande a dupé les Européens, et qu'elle était digne ni d'être imitée ni de l'intérêt qu'on lui apportait, et moins encore des emprunts qu'on rivalisait à lui faire. Que l'on se renseigne donc aujourd'hui sur Schiller, Guillaume de Humboldt, Schleiermacher, Hegel, Schelling, qu'on lise leurs correspondances et qu'on se fasse introduire dans le grand cercle de leurs adhérents. Qu'est-ce qui leur est commun? Qu'est-ce qui, chez eux, nous impressionne tels que nous sommes maintenant, tantôt d'une façon si insupportable, tantôt d'une façon si touchante et si pitoyable? D'une part, la rage de paraître à tout prix moralement ému, d'autre part, le désir d'une universalité brillante et sans consistance, ainsi que l'intention arrêtée de voir tout en beau, les caractères, les passions, les époques, les mœurs. Malheureusement, ce beau répondait à un mauvais goût vague qui néanmoins se vantait d'être de provenance grecque. C'est un idéalisme doux, bonasse, avec des reflets argentés, qui veut avant tout avoir des attitudes et des accents noblement travestis, quelque chose de prétentieux autant qu'inoffensif, animé d'une cordiale aversion contre la réalité froide ou sèche, contre l'anatomie, contre les passions complètes, contre toute espèce de continence et de scepticisme philosophique, mais surtout contre la connaissance de la nature pour peu qu'elle ne puisse pas servir à un symbolisme religieux. Goethe assistait à sa façon à ces agitations de la culture allemande, se plaçant en dehors, résistant doucement, silencieux, s'affermissant toujours davantage sur son propre chemin meilleur. Un peu plus tard, Schopenhauer lui aussi y assistait. Selon lui, une part du monde véritable et des diableries du monde était de nouveau devenue visible, et il en parlait avec autant de grossièreté que d'enthousiasme. Car dans cette diablerie, il y avait de la beauté. Et qu'est-ce qui séduisit au fond les étrangers? Qu'est-ce qui les fit ne point se comporter comme Goethe et Schopenhauer ou simplement regarder ailleurs? C'était cet éclat mat, cette énigmatique lumière de voie lactée qui brillait autour de cette culture. Cela faisait dire aux étrangers « Voilà quelque chose qui est très, très lointain pour nous. Nous y perdons la vue, l'ouïe, l'entendement, le sens de la jouissance et de l'évaluation. Mais malgré tout, cela pourrait bien être les astres. Les Allemands auraient-ils découvert en toute douceur un coin du ciel et s'y seraient-ils installés? Il faut essayer de s'approcher des Allemands. Et on s'approcha d'eux. Tandis que, peu de temps après, ces mêmes Allemands commencèrent à se donner de la peine pour se débarrasser de cet éclat de voie lactée. Ils savaient trop bien qu'ils n'avaient pas été au ciel, mais dans un nuage. Homme meilleur. On me dit que notre art s'adresse aux hommes du présent, avides, insatiables, indomptés, dégoûtés, tourmentés, et qu'il leur montre une image de la béatitude, de l'élévation, de la sublimité à côté de l'image de leur laideur. Afin qu'il leur soit possible d'oublier une fois et de respirer librement, peut-être même de rapporter de cet oubli une incitation à la fuite et à la conversion. Pauvre artiste qui aura pareil public, avec de telles arrière-pensées qui tiennent du prêtre et du médecin aliéniste. Combien plus heureux était Corneille, le grand Corneille, comme s'exclamait Madame de Sévigné avec l'accent de la femme devant un homme complet. Combien supérieur le public de Corneille à qui il pouvait faire du bien avec les images de la vertu chevaleresque, du devoir sévère, du sacrifice généreux, de l'héroïque discipline de soi-même. Combien différemment l'un et l'autre aimaient l'existence, non pas créée par une volonté aveugle et inculte que l'on maudit parce qu'on ne sait pas la détruire, mais aimant l'existence comme un lieu où la grandeur et l'humanité sont possibles en même temps, et où même la contrainte la plus sévère des formes, la soumission au bon plaisir princier ou ecclésiastique, ne peuvent étouffer ni la fierté, ni le sentiment chevaleresque, ni la grâce, ni l'esprit de tous les individus, mais sont plutôt considérés comme un charme de plus et un aiguillon à créer un contraste à la souveraineté et à la noblesse de naissance, à la puissance héréditaire du vouloir et de la passion.